psychologique a mis un certain nombre d'exemplaires de numéros, j'imagine, intéressants ou d'articles intéressants de la NRT. Bon, vous pouvez les prendre simplement ou encore mettre une pièce d'un euro ou quoi dans une petite boîte qui est là. Deuxièmement, j'en profite puisque c'est... Donc, il y a quelques années, j'avais écrit un livre sur Marie de l'Incarnation que le pape François vient de déclarer sainte. Bossuet l'appelait lui-même, eh bien, la Thérèse d'Avila de Nouvelle-France. Autrement dit, elle était de Tours, et après ça, eh bien, elle était parmi les toutes premières femmes religieuses, donc, à partir pour Québec, quoi, la Nouvelle-France. Alors, donc, j'avais écrit un livre, parce que c'est une mystique, hein, une belle chose. Et alors, bon, ben, j'en ai encore quelques exemplaires. Si jamais, hein, pour 4 euros, on peut, hein, on peut le prendre. Il y a des belles choses sur la mystique trinitaire, hein, côté apostolique et tout. Enfin, voyez, donc c'est cela. Donc, c'est notre dernière heure, hein, la fin, si on peut dire, de notre parcours. Hein. Et nous allons terminer, comme ça avait été prévu, eh bien, par un petit mot, hein, sur l'adoration eucharistique. Bon, je crois que nous avons fait un beau parcours. Hein. Vous le voyez bien, nous avons suivi, hein, nous nous sommes laissés guider par la prière eucharistique elle-même, hein, que l'on a, que l'on redit, hein, chaque dimanche à l'Eucharistie. Hein. La part, si on peut dire, bien vu, là, d'offrande, parce que le mot offrande, le mot sacrifice revient souvent dans les prières, hein, l'offrande, hein, du Christ, parce qu'au fond, le sacrifice c'est ceci, hein, comme le dit Augustin, un sacrifice, eh bien c'est quelque chose de res divina, c'est une chose divine, c'est adressé à Dieu, évidemment, mais précisément pour nous, hein. Donc autrement dit, c'est tout de même, on s'offre à Dieu, eh bien pour d'autres, le Christ, eh bien pour nous, voilà. Et la dernière, vous voyez bien, la dernière heure, on a pris donc ce qu'on appelle la liturgie de communion à partir du Pater. Hein. Bon, on suivait les gestes du Christ à la dernière scène. Hein. Il prit le pain, hein. Il le rompit, il prononça la bénédiction. Donc, on l'a vu à partir de la prière juive, c'est la prière eucharistique. Alors, il le rompit et le donna à ses disciples. Et voilà, ça c'est la deuxième partie, hein, avec le pater, et alors le moment où le prêtre rompt et le pain et le distribue. Voilà, donc c'est un peu le parcours que nous avons fait. Et alors, eh bien, pour terminer aujourd'hui, je voudrais dire un petit mot sur l'adoration eucharistique. Hein. Voilà. Il faut se dire que à la suite du Concile, hein, lorsque la réforme liturgique s'est mise en place, hein, il y a eu, en tout cas, une désaffection, hein, par rapport à toutes ces pratiques, comme par exemple, hein, le dimanche, il y avait vêpres avec adoration du Saint-Sacrement, hein, les processions de la fête-dieu, hein, enfin, tout ce côté-là, non seulement désaffection, mais on pourrait presque dire contestation de cela. Autrement dit, mais voilà, ça donnait l'impression précisément, hein, d'une perception qu'on pourrait dire chosiste, hein, hein, comme si l'Eucharistie c'était une chose, hein, quelque chose de quasi magique. Alors que la messe, elle, on l'a vu, elle est une action. Hein, hein, donc la messe est une action. Et voilà que tout d'un coup, eh bien, plutôt qu'on pourrait dire que d'être là à manger le corps du Christ, bah, on le regarde. Hein. C'est pas tout de même tout à fait ce que le Christ a dit donc à la dernière scène. Hein. Il y a une vingtaine d'années, je me rappelle, j'étais dans une église, hein, une paroisse, hein, Et alors, ben, pour l'Avent, hein, le curé a décidé, une fois par semaine, eh bien, le soir, d'avoir une demi-heure d'adoration eucharistique. Il y a à peu près 20 ans de ça. Ah, c'était la part de beaucoup de gens comme consternation. Hein. C'est comme si on retournait 20 ou 30 ans en arrière, hein, par rapport donc, à l'acquis donc, du Concile. Je dirais la même chose hein, dans ce institut ici. Hein. Jusqu'à 10 ans, ça aurait été pratiquement inconcevable de terminer le parcours d'un séminaire sur l'Eucharistie par une heure consacrée à l'adoration eucharistique. Parce que, précisément pour ces raisons-là, hein, ça paraissait quelque chose donc, de chosiste. Alors, je lisais dernièrement, mais là, on voit bien, c'est un peu tordu comme affaire, hein, un article sur la présence réelle. Ah, voilà. Tout l'article était là pour dire que finalement, que petit Jésus soit dans le tabernacle, hein, qu'on adore, eh bien, cela distrayait hein, de la véritable présence hein, de Dieu en nous hein, et qui est celle, la manière dont il est présent dans nos cœurs. Autrement dit, voilà, c'est un plaidoyer pour une présence réelle, voilà, qui disait-il, hein, au fond du cœur. Et par rapport à laquelle ben, toutes ces pratiques, on pourrait dire, hein, adoration eucharistique, eh bien, pouvaient. Donc, ces pratiques pouvaient distraire. En tout cas, on peut au moins, on a ces contestations et tout ça, hein, on peut au moins dire ceci, hein, que, eh bien, l'adoration eucharistique est une pratique. Hein, qui relève de la dévotion eucharistique. Et donc, on peut comprendre que tous, toutes n'y soient pas sensibles de la même manière. Hein. On n'est pas obligé d'aller au salut du Saint-Sacrement comme hein, le dimanche, mais le faire, on devrait aller donc à la messe. Hein. Et donc, non, il y a cet aspect-là. Par ailleurs, hein, par ailleurs, hein, si on regarde sur les, disons, 15 dernières années, hein, eh bien, il y a, je ne sais pas comment, hein, par quelle alchimie, hein, mais il y a un retour, hein, il y a une redécouverte, peut-on dire. Hein. Les formes anciennes, peut-on dire, sont devenues un peu dépassées. Hein, et en même temps, eh bien, il y a une redécouverte de l'adoration eucharistique. Je vois maintenant, hein, il y a même des affiches hein, avec l'église, hein, Saint-Jean-Baptiste, et un grand bel ostensoir hein, pour dire que tous les dimanches après la messe, il y a une demi-heure d'adoration eucharistique pour ceux qui veulent rester. Voilà. Je dirais, voyez-vous, ne serait-ce que tout près de nous, hein, il y a une fois par mois, hein, il y a les soirées, louanges et guérisons. Hein, voilà. Hein. Beaucoup de gens très variés viennent et tout ça. Et où de fait, bon, après une prédication, on est là à montrer en procession, si on peut dire, eh bien, en procession, l'ostensoir. Autre point, hein, lentement, les choses reviennent, enfin, elles ne seront jamais. C'est toujours. Ce qui est neuf n'est jamais l'ancien, même lorsque ça récupère l'ancien. Donc, c'est pas. Mais on voit, on pourrait dire, hein, disons ceci, hein, la procession de la fête Dieu, hein, eh bien, était devenue l'apanage des intégristes, hein, depuis 15-20 ans. Hein. Voilà. Hein. On voit maintenant, je voyais que le Monseigneur Derville, vraiment pour fêter un anniversaire, le 800e, je crois, hein, de l'institution de la fête Dieu, donc avec Julien de Montcornillon, ben, de faire dans la ville de Liège une procession même hein, de la fête Dieu. Donc, autrement dit, à la fois, on sent hein, tous, et même peut-être vous, vous ne. On ne partage pas nécessairement tous la même sensibilité hein, Mais on voit que les choses se sont remises en place et que de ce point de vue-là, ce qu'on met sur le mot adoration eucharistique, eh bien, fait partie d'une corde profonde, on peut dire, au moins, de la piété, dévotion catholique. On pourrait dire la même chose, eh bien, par rapport beaucoup de nouvelles familles religieuses qui se sont fondées, surtout depuis les années 75-80, on voit la place que souvent dans ces familles religieuses, les temps d'adoration silencieuse, un peu dans la ligne peut-être de Charles de Foucault, eh bien voilà, la place que ça tient. Donc, autrement dit, malgré tout, vous voyez, s'il y a 10 ans, on pouvait laisser tomber l'adoration eucharistique, bah, il est bien, il est honnête, ce soir, eh bien, d'en dire un mot, pour terminer, on peut dire, notre cycle. Donc, je disais, c'est une dévotion. C'est une dévotion qui est un fait d'Église. Voilà. Ça meurt, en tout cas, ça revient. Voilà. En même temps, c'est un fait qui est propre à l'Église latine d'Occident. Autrement dit, eh bien, l'Église, les orthodoxes, nous partageons exactement la même foi en la présence eucharistique, la même, on pourrait reprendre leur canon même de la prière eucharistique et les faire nôtres. Donc, et pourtant, eh bien, il n'y a pas, il n'y a pas de tabernacle dans les églises orthodoxes. Si vous y êtes déjà allé, les orthodoxes habituellement, mais voilà, il y a une iconostase, peut-on dire, il y a comme un mur, d'icônes, de saints, tout ça, même du Christ glorieux, et qui est là et qui cache, eh bien, le sanctuaire, là où de fait le prêtre va célébrer. Et alors, dans l'église même, il va y avoir, parce que là, ils vont avoir, ils gardent le Saint-Sacrement pour les malades. Ah, il est derrière, il est dans l'église, mais on voit bien, en tout cas, c'est intéressant, pour eux, l'icône elle-même, elle renvoie, bon, vous voyez un mot un peu bizarre, barbare, mais elle renvoie à son prototype, c'est-à-dire à ce dont elle est l'image, quoi. Elle rend présent, à travers les saints, elle rend présent le Christ comme tel. Donc, il y a une puissance, on peut dire, une présence du Christ, et qui passe pour les orthodoxes, précisément, eh bien, par les icônes, telles qu'elles sont là, et que de fait, en étant là, elle masque l'espace qui est réservé donc, au sacrifice lui-même, où je célèbre la messe. Donc, on voit, donc c'est un peu comme disaient donc les pères de l'Église, comme si, mettons une pièce de monnaie, mais voilà, l'effigie du roi, je suis à certains points, dit une présence du roi. Et bien, de façon réaliste, l'icône elle-même dit une présence du Christ dans l'Église. Si bien que, eh bien, voilà. Donc au moins ceci, en Orient, il n'y a pas de tabernacle. Il n'y a pas donc d'adoration et pas d'eucharistique. Et pourtant, eh bien autant que je peux voir, une église byzantine est aussi habitée par une présence. Nous, on pense immédiatement le tabernacle. Eux, eh bien, c'est en un sens, les icônes, en rendant présent celui qu'elles représentent, eh bien, mettent devant tout de même un silence, et qui est celui, eh bien, de l'espace auquel les fidèles n'ont pas accès, et qui est celui où se dit la messe. Donc, voilà. Donc, on voit, on est devant un fait qui est propre à l'Occident, aux églises d'Occident. Et c'est en gros à partir du Xe siècle que, eh bien, on commence, peut-on dire, à avoir une réserve eucharistique, qu'on va mettre dans des armoires, des fois, hein, ou encore, eh bien, comme dans des lampes, comme ça, hein, suspendues. Hein. Et alors, avec le désir de voir, hein, l'hostie, ça, c'est un élément, c'est assez paradoxal, 11e, 12e siècle, très peu de gens, comme je vous l'ai dit, hein, communient. D'abord, ben, c'est difficile, parce que pas facile de s'approcher du sacrement de pénitence à ce moment-là, en ce temps-là. Non. Mais alors, mais même, c'est pour ça qu'on faisait sonner la cloche. Les gens venaient des champs, hein, juste pour voir, eh bien, ce moment où le prêtre, tout simplement, après la consécration, comme nous le faisons, un geste qui vient de ce temps-là, hein, eh bien, montre l'hostie. Et alors, donc, c'est comme ça que, voyez-vous, il y avait déjà, pour les reliques des saints, hein, il y avait des petits reliquaires, hein, où on pouvait voir l'os, où on pouvait voir un morceau de vêtement, hein, voilà. Eh bien, graduellement, on va vouloir voir l'hostie, et donc, ces formes de reliquaires vont devenir, finalement, eh bien, des ostensoirs, hein, et qui, alors, eh bien, où on peut voir, eh bien, le Christ exposé. Donc, c'est en Occident, hein, et plus précisément, hein, j'y faisais allusion, c'est à partir de Liège, c'est à partir de Julien du Mont-Cornillon, hein, et qui a lancé, si on peut dire, eh bien, la procession du Corpus Christi, et qui va mener à une fête liturgique, hein, une des toutes seules fêtes liturgiques qui ne soit pas, parce qu'une fête liturgique, habituellement, renvoie à un événement de la vie du Christ, hein. Mort, résurrection, allez, hein, ascension, Pentecôte, tandis que là, bien, vous avez fait du très saint sacrement, Corpus Christi, hein, et qui sera donc précisément dans les années. Saint Thomas lui-même qui va composer les hymnes pour cette fête et qui va prendre donc une portée universelle. Donc, voilà. Si on continue maintenant, on voit qu'il est arrivé le Concile de Trente, bien entendu, hein. Tout ce qui était adoration eucharistique donnait l'urticaire, hein, aux protestants. Hein? Imbuvable. Hein? Et surtout, enfin, comme je vous l'ai dit, pour Calvin, c'était de l'idolâtrie. Hein? On adore un bout de pain. Voilà. Et alors, donc, en partie, hein, en réaction, parce que, hein, c'est la contre-réforme, quoi, hein, contre les protestants, eh bien là, vraiment, à ce moment-là, il s'est fait toutes sortes d'associations, d'adorations perpétuelles du Saint-Sacrement. Vous avez des congrégations adoratrices, des congrégations réparatrices, vous avez des victimes, je ne sais trop quoi, hein, voilà, hein, totalement données, peut-on dire, eh bien, à faire une amende honorable et adoration perpétuelle. Donc, un bon nombre de ces congrégations, maintenant, bon, commence à prendre de l'âge. Vous avez connu, elles existaient. Hein. Elles existent encore, d'ailleurs. Hein. Donc, on voit, il y a eu, donc, un développement, peut-on dire, de l'adoration eucharistique, et qui a conduit, entre autres, à des congrès eucharistiques internationaux, hein, à partir de la fin, donc, du 19e siècle, et qui, bon, ces produits ont conduit jusqu'à Vatican II. Avec un certain moment donné, comme je vous disais, hein, et épuisement. Hein. Alors, ce qui me frappe quand je regarde moi-même, je regardais comme ça, parce que les papes ont parlé, hein, ont rappelé, hein, ils rappellent beaucoup de choses, les papes, hein, mais là, ils ont rappelé tout de même l'adoration eucharistique et tout, les bienfaits de cela. Ce qui me frappe, c'est combien, jusqu'à Jean-Paul II, inclus pratiquement, hein, eh bien, on associe toujours, les papes sont là à associer adoration et réparation. Un peu dans la ligne de Marguerite Marie à la coque. Hein. Vous le voyez bien, le Sacré-Cœur de Montmartre, eh bien, adoration et en même temps adoration. Et en même temps, eh bien, Réparation. Je ne suis pas contre la réparation, hein. Mais tout de même, ça me rend pas compte. Non, vous ne trouvez pas? Ça ne rend pas compte de tout, hein. Non, pour moi, je me vois pas constamment en train de réparer, quoi. Hein. Ou avec, j'aurais raison de le faire, mais enfin, voilà. Et alors, donc, c'est comme ça qu'on en arrive donc, à l'étape actuelle. Alors, avant d'aller plus loin, parce que c'est peut-être bon, parce qu'on va voir des textes maintenant de Benoît XVI, je crois, selon moi, qu'il faut distinguer entre, eh bien, on pourrait dire, Jésus au tabernacle, et alors, eh bien, de ce sacrement explosé. Hein? C'est une chose, qu'allez-vous, hein? Au tabernacle, maintenant, c'est la continuation tout de même de la messe. Hein? Au tabernacle, hein? Il y a là une présence, on le sent bien dès qu'on entre dans une église. Hein? Et alors, eh bien, mais vous n'êtes pas toujours, quand vous êtes devant le tabernacle tout de même, eh bien, en termes de faire un acte d'adoration. Il peut arriver tout simplement que vous êtes là, vous vous asseyez parce que vous êtes fatigué, ou alors, parce qu'il disait tranquille, hein? Ou encore, comme disait donc ce paysan au curé d'Ars, ben, je l'avise, il va vivre, c'est quoi, hein? Vous voyez bien, par exemple, bon, dans la chapelle, chez nous, on a l'office le matin, hein? Dans la chapelle, ben, c'est sacrement, le tabernacle est là, ben, on n'est pas là à faire de l'adoration, on est là à dire l'office. Hein, c'est pas, hein, voilà, ou bien il peut arriver que devant le tabernacle, on ne soit pas nécessairement là à penser à Jésus pour lui-même, il est là. Et alors voilà, on prie, on médite, hein, on fait part de ses soucis. Hein, voilà. Il y a un mode, je ne suis pas là, je suis prêt à dire, tout ce qui est au tabernacle est en continuation. Hein, alors que, selon moi, là où il y a le Saint-Sacrement exposé, hein? Je serais porté à dire, il doit prendre toute la place. On ne peut pas être là à s'occuper alors qu'il est là. Il y a des choses qu'on ferait entre nous, après nos prières et tout, mais tabernacle, la chapelle, mais quand le Saint-Sacrement est là, exposé, ben, il me semble que, eh bien, on est davantage d'abord au niveau de l'adoration, hein, avant d'être là à prendre son prion avec l'Église et trouver, eh bien, hein, une belle prière, quoi. Hein. Donc, l'adoration eucharistique, comme telle, elle implique précisément un vis-à-vis. Je crois qu'elle implique en même temps, eh bien, de se laisser, là, oui, adorer, hein, regarder le Christ pour ce qu'il est en lui-même. Alors, à ce propos-là, je vous lis, parce que, de fait, celui qui a lancé, mais ça n'a pas bien entendu, comme vous le voyez, depuis une quinzaine, une vingtaine, depuis, oui, depuis une vingtaine d'années, hein, il y a redécouverte. La signification qu'il y a à l'adoration eucharistique. Je crois que de fait, celui qui a marqué non seulement un coup d'envoi, parce qu'il était là, mais donné, si on peut dire, par-delà, une théologie, hein, de ce que c'est que l'adoration eucharistique, c'était le pape Benoît XVI aux Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Hein? Vous le voyez bien, le thème avait été cette phrase qui vient de Matthieu, quoi, hein, les rois mages, hein? Nous sommes venus pour l'adorer. Hein? Et alors, il a fait de ce congrès eucharistique, hein, eh bien, un moment d'adoration eucharistique en silence. Et alors, il y a cette phrase, à un moment donné, hein, dans une homélie, vous allez voir, que je vous dis et que je trouve très juste. Après ça. Alors, il prend le mot adoration. Hein. On peut l'entendre comme le mot grec à l'arrière, c'est prostunesis. Tandis qu'en latin, c'est adoratio. Alors, il part du terme grec, proskunesis. Et alors, il dit ceci. Je vous lis. Le mot grec est proskinesis. Il signifie le geste de la soumission, la reconnaissance de Dieu comme notre vraie mesure, dont nous acceptons de suivre la règle. Il signifie que liberté ne veut pas dire jouir de la vie, se croire absolument autonome, mais s'orienter selon la mesure de la vérité et du bien, pour devenir de cette façon, nous aussi, vrais et bons. Cette attitude nécessaire, même si dans un premier temps notre est nécessaire, même si dans un premier temps notre soif de liberté résiste à une telle perspective. Je dirais, d'une façon ou d'une autre, voilà, adorer, c'est reconnaître eh bien, le Christ dans le style pour ce qu'il est devant moi. Avant même d'en rajouter, avant même de faire des commentaires. Autrement dit, au moins, ça ne manque pas d'être, de prendre d'abord une mesure de temps. C'est pas seulement une flexion, ça prend une mesure en 5 minutes. Un moment, autrement dit, eh bien, qui nous met devant quelqu'un. Et qui, comme il est dit ici, eh bien, à partir duquel on peut orienter sa vie. Ça, je crois que c'est... on ne va pas à l'adoration juste pour faire beaucoup de bruit, pour s'occuper. C'est d'abord lui, devant lequel on veut pouvoir se trouver. C'est le premier sens du mot. Alors, il continue. Le mot latin pour adorer est « adoratio ». C'est-à-dire contact bouche à bouche, baiser, accolade, et donc, en définitive, amour. Donc, c'est une homélie qu'il a fait, donc, à Cologne, quoi. Il ne parle pas uniquement des cardinaux, voilà, aux Journées mondiales de la jeunesse. Et il continue. La soumission devient union, parce que celui auquel nous nous soumettons est amour. Non, c'est le deuxième aspect. Celui auquel on se soumet est amour. Ainsi, la soumission prend un sens parce qu'elle ne nous impose pas des choses étrangères, voilà la phrase, mais nous libère à partir du plus profond de notre être. Ne pas uniquement partir de l'impression, l'impétuosité immédiate du moment, le temps de se trouver devant lui, de savoir, de reconnaître qu'il est là. Il y a déjà une soumission, peut-on dire, au réel, puisqu'il est là. Il y a une soumission à une norme, au temps, parce qu'on n'est pas là à regarder sa montre immédiatement. Et en même temps, on le voit, à partir de cette soumission au réel, d'autres aspects, puisqu'au fond, c'est une relation d'amour, même avec quelqu'un, voyez-vous, eh bien, cela, autrement dit, ceci conduit, comme il dit ici, ad oratio, bouche à bouche, baiser, accolade, et en définitive, amour. Je crois, voyez-vous, nous ne sommes plus uniquement avec ça, devant adoration et réparation. On passe à un autre plan, c'est-à-dire la vérité de ce que je suis, eh bien, par rapport, eh bien, à la vérité de ce qu'il est. Moi, il me semble que là, il donne, on peut dire, et au moins il donne le juste ton pour pouvoir situer, eh bien, ce que implique, ce qu'ajoute, peut-on dire, la manière dont l'adoration et l'adoration eucharistique peuvent compléter. Encore une autre phrase, toujours dans une autre homélie. Donc, autrement dit, il commente cette phrase, les mâches, tombe à genoux et se prosterne devant lui. Chers amis, il ne s'agit pas d'une histoire lointaine survenue il y a très longtemps. Il s'agit d'une présence. Ici, dans la Sainte Hostie, Il est devant nous et au milieu de nous. Non, il s'agit d'une présence. Comme à ce temps-là, il se voile mystérieusement dans un silence sacré. C'est vrai. Et comme à ce temps-là, se dévoile précisément le vrai visage de Dieu. Il se découvre à nous, dans la mesure où on s'est resté là. Il s'est fait pour nous le grain de blé tombé en terre, qui meurt et qui porte du fruit jusqu'à la fin. Il est présent, comme en ce temps-là, à Bethléem. Il nous invite au pèlerinage intérieur qui s'appelle adoration. Donc, vous le voyez, c'est autre chose que tout simplement faire la méditation transcendantale, ou tout simplement de déconnecter. Oui, on déconnecte, mais face à quelqu'un. Et alors, du coup, pour laisser le temps à ce qui est en nous, eh bien, de pouvoir monter. Bon, ce que je veux dire, c'est que voilà, il me semble que c'est avec Jean, avec Benoît XVI, a donné, peut-on dire, eh bien, le ton, juste, eh bien, pour pouvoir, eh bien, entendre l'adoration eucharistique. Et voyez-vous, dans ce sens-là, et qui est différente, qui est différente de ce moment qu'on peut passer éventuellement, eh bien, devant le tabernacle, et qui dit aussi une présence. Alors, ensuite est arrivé donc le synode sur le sacrement de l'Eucharistie. Et alors, il y a eu donc le texte du synode, celui qui est paru, et où il y a précisément deux ou trois paragraphes sur l'adoration eucharistique. Il ne fait pas la distinction comme je la fais, voilà, entre... Parce que je crois que c'est différent que d'être devant le tabernacle et une autre, à tout prix, dès qu'on est là, ouvrir, trouver la nulle, la mettre là. Des fois, ça embête les autres, d'ailleurs. Personne ne dispose comme tel d'une chapelle pour aller trouver. On n'a pas toujours... C'est pas le même type de relation que celle où il est volé dans le tabernacle. Et lorsqu'il est devant moi, c'est tout de même pour que je le regarde. Et qu'il me regarde, un autre type de relation. Enfin, voilà, donc, alors il fait, donc, il évoque qu'au synode, eh bien, il est à la basilique Saint-Pierre avec tous les évêques, et alors, il a eu, donc, une adoration eucharistique. Par ce geste de prière, l'Assemblée des évêques a voulu attirer l'attention, et non seulement par des paroles, mais oui, sur l'importance de la relation intrinsèque entre célébration eucharistique et adoration. Le lien qu'il y a entre les deux. Tout notre cours a porté sur la célébration eucharistique. Ici, on voit quel est le lien entre la célébration eucharistique telle que nous l'avons le dimanche et l'adoration. Dans cet aspect significatif de la foi de l'Église se trouve, un des éléments. Alors, il reconnaît tout de même, l'horaire que, eh bien, avec Vatican II, avec la réforme, le rapport entre la messe et l'adoration eucharistique n'a pas toujours été très clairement perçu. Et que beaucoup ont été là à se dire, mais voilà, si le Christ se donne, c'est pour être mangé et non pas uniquement pour être contemplé. En un sens, c'est imparable. En réalité, à la lumière de l'expérience de prière de l'Église, on voit bien à la lumière de l'expérience de prière de l'Église, c'est-à-dire tout de même ce millénaire, où de fait, le tabernacle. Une telle opposition se révélait privée de tout fondement. Déjà, saint Augustin disait que personne ne mange cette chair sans d'abord l'adorer. Nous pécherions si nous ne l'adorions pas. Et pour se dire que de faire en toute messe, alors même qu'on célèbre la mort et la résurrection du Christ, eh bien, il y a un acte d'adoration. après les paroles de la consécration, hein, il y a un acte d'adoration, ne serait-ce qu'en silence, ne serait-ce qu'en inclinant la tête ou à genoux. Hein. Et je dirais, même chose, communier, recevoir le corps du Christ, bon, c'est déjà une confession de ce que c'est le Christ. Il y a un acte d'adoration, hein, dans l'acte même par lequel eh bien, on le mange. Hein. Dans l'Eucharistie, en effet, le Fils de Dieu vient à notre rencontre et désire s'unir à nous. Voilà. L'adoration eucharistique, de ce point de vue-là, n'est rien d'autre que le développement explicite de la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand acte d'adoration de l'Église. La célébration eucharistique, telle que nous l'avons vue, est en elle-même déjà hein, le plus grand acte d'adoration de l'Église. Ce qui veut dire, ce n'est pas quelque chose qui vient se surajouter, hein, c'est quelque chose eh bien, qui prolonge. C'est ça, c'est exactement, le pape lui-même le dit, voilà, je lis. L'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique elle-même. En effet, ce n'est que dans l'adoration que peut mûrir un accueil profond et vrai. Et c'est même par cet acte personnel de rencontre avec le Seigneur que mûrit ensuite la mission et la mission donc ecclésiale de l'Église. Voilà, autrement dit, au moins pour nous conforter, hein, lorsqu'il nous arrive, par exemple, de nous retrouver donc, à l'Église, arrêter devant ce sacrement ou quoi, eh bien, qui nous conforte dans ce fait qu'on prolonge ainsi, il est bon de donner du temps hein, à ceux qui nous sont chers, à ceux qui sont importants pour nous, à ceux dont on a besoin aussi. Hein, voilà. Ça arrive qu'on le fait. Hein, voilà. Alors, ensuite, bien entendu, dans ce livre, il parle tout simplement il suggère même que dans les zones plus peuplées, eh bien, on puisse réserver hein, des églises à l'adoration perpétuelle. Hein. Il y en a, je crois que maintenant on a essayé l'expérience dans l'autre bout de la ville, à Kokelberg, hein? il y a des endroits où il y a, oui, il y a même perpétuel, ou au moins, jusque hein, tard le soir, on se relaie. Hein? Voilà, bon. Hein? Et alors il dit entre autres ceci. En outre, je recommande que dans la formation catéchétique, en particulier dans les parcours de préparation à la première communion, les enfants soient initiés au sens de la beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus. Au sens et à la beauté du fait de se tenir en compagnie de Jésus. En cultivant l'admiration pour sa présence dans l'Eucharistie. Hein? Au sens d'une présence. Donc, voilà pour cela. Alors, maintenant, voilà, puisque pour situer, hein, rendre compte, on peut dire, de ce qu'est, parce qu'il y a différentes formes, on peut dire, hein, d'adoration, d'exposition du sacrement, mais enfin, me semble-t-il, la place, la portée que ça a. Alors, par ailleurs, eh bien, je commente rapidement ce texte, hein, je vous ai passé, donc, intégralement, hein, un texte du père Jean-Marie Hénaud hein, et qui porte précisément sur eh bien, l'adoration eucharistique. Je me contente de le commenter, hein, relever quelques phrases comme cela, mais je me dis, ça peut être des fois de retour à la maison une bonne façon, en le disant, de retrouver... Hein, tel ou tel aspect hein, du sacrement hein, qu'on a abordé ensemble hein, durant le parcours qu'on a fait, une façon de reprendre, de faire la synthèse de la... Alors, Le texte est là, hein? Il a dit, alors il veut développer l'idée suivante, pour garder tout son sens, l'adoration de l'Eucharistie ne peut être détachée de la messe. C'est ça parfois, hein? Il faut reconnaître qu'il y a des exagérations parfois, hein? Il y a un côté miracle qu'on attend, il y a un côté comme si vraiment automatiquement, hein? En même temps, ça passe aussi par le cœur de chacun, souvent aussi, en partie, s'il est suffisamment bien contrôlé par la piété populaire, hein, comme on dit, hein? Donc, c'est pas uniquement l'adoration eucharistique n'est pas uniquement faite pour des intellectuels, quoi, hein? Les gens simples, hein, ils voient. Hein? J'ai vu des fois, par exemple, soirée louange et guérison, mais la manière dont les gens sont. Et souvent, il y a des gens qui ont de grandes souffrances, hein? Hein? De grandes souffrances, hein? Et qui regardent, cependant, hein, le Saint-Sacrement qui passe. On respecte, non? On respecte. Hein? Ça passe aussi bien, et bien par cela. Alors, je prends, mettons, le premier, l'acte eucharistique à la scène. Hein? Vous allez voir, au fond, c'est cela, c'est qu'on est, on peut voir avec Benoît XVI, c'est d'abord la personne de Jésus qui compte, hein? Qui doit prendre sa place. Alors, je parle page marquée 220, là, milieu du texte. Après que Jésus a prononcé ces paroles, donc ceci, hein, ceci est mon cœur, il est présent en son corps propre et à l'extérieur de celui-ci, dans le pain qu'il tend aux assistants. Rappelons, hein, cela, parce qu'au fond, ce n'est plus du pain, c'est tout de même le corps du Christ, non? Je crois, moi, après ce cours, j'espère. Alors, cette présence de Jésus hors de lui-même, si l'on peut dire, ma première manière de parler, n'est possible que par l'amour. C'est l'amour qui fait sortir de soi et demeurer dans l'être aimé. Comme l'époux ne veut plus être qu'une seule chair avec son épouse, le Christ Jésus veut faire de ses disciples, de ses communiants, son corps. Le lien du corps eucharistique de Jésus, hein, donc, sa présence dans le pain, avec ce que nous appelons le corps mystique, eh bien, ça, nous l'avons déjà vu, hein, nous sommes avec lui un seul corps. Bien ensuite, donc, on voit, il est là, hors de lui-même, et si c'est possible, comme ici Jean-Marie Le Nôtre, c'est tout de même par amour. Et cela, pour que ça puisse être cela, il faut qu'il accepte lui-même de mourir à son corps particulier. Hein? Bon, ce sera bien entendu les heures qui vont suivre. Hein? Ce seront celles, si on peut dire, de la passion et de sa mort. Mais alors, le texte, paragraphe suivant. C'est la puissance de son amour extatique, c'est-à-dire capable de sortir de soi-même, qui permet à Jésus, dès la scène, de se rendre présent hors de lui-même dans le pain et de passer ainsi librement et définitivement au Père et aux hommes. Alors, bien entendu, on va dire, ben, c'est la puissance de Dieu, c'est le miracle de Dieu. D'accord, mais alors, donc, au milieu du texte, là, vous avez donc. Alors, Père Jean-Marie Hénaud va dire, ben, ça ne suffit pas de parler de miracle. Hein? Du milieu de paragraphe, on ne voit pas assez que c'est aussi parce que l'homme, Jésus, nous aime d'amour jusqu'à en mourir. Donc, ce n'est pas seulement la nature divine, c'est l'homme, Jésus, qui nous aime jusqu'à en mourir, et d'une manière extatique, comme pour hors de soi. Qu'est-ce que nous appelons transsubstantiation? C'est un mot avec lequel maintenant on est accoutumé, hein? Impossible. Ce n'est pas seulement un miracle de la puissance divine, c'est aussi un miracle de l'amour humain de Jésus pour son Père et pour nous. Et alors, la suite, hein, fin du paragraphe, il faut qu'il veuille mourir pour nous par amour, et il faut que son cœur humain ne vive plus qu'en dehors de lui, comme une extase subsistant dans le Père et en nous. Et le texte continue. Hein. Donc, contempler l'hostie, parce que c'est ça. Hein. On est allé à la messe. Hein. Là, on est là à contempler l'hostie. Contempler l'hostie, c'est donc contempler et adorer. Adorer. Un acte d'amour qui a parfaitement réussi. Voilà un acte d'amour. Hein. Hein. Christ, en se tenant, eh bien, vraiment. Eh bien, il est extatiquement pour les autres. Un acte d'amour qui a parfaitement réussi. Si Jésus n'était pas réellement présent dans le pain, cela voudrait dire qu'il a essayé de sortir de lui-même, de mourir par amour, de se rendre présent à l'extérieur de lui-même, en ceux qu'il aime, mais qu'il n'y est pas parvenu. Comment dit, si c'est uniquement... Hein? Du pain, eh bien le Christ n'est pas parvenu à sortir. C'est le réalisme, je veux dire, eucharistique. Donc, le dogme de la présence réelle porte sur la réalité de l'amour du Christ pour nous. Donc, et le texte continue, hein, toujours dans la même ligne, s'inspire de Saint Jean, le dernier paragraphe de la part. Hein. Ma pratique de la communion eucharistique me conduit donc, pour que j'en respecte tous les mystères, à l'adoration de l'hostie hors de moi, à l'extase de Jésus doit correspondre une autre extase, c'est-à-dire ma propre extase. Il y a cette phrase juste avant, hein, au milieu du bain. Je ne puis espérer donc, hein, y participer qu'en l'adorant d'abord hors de moi-même, hein, reconnaissant ainsi pleinement qu'il est lui seul la source de l'amour. Autrement dit, voyez-vous, c'est pas uniquement à partir. Hein, je prenais tout à l'heure le texte de Benoît XVI qui parlait donc de la proskynésis. Hein, c'est tout de même obéir à une règle. C'est tout de même, oui, à quelque chose qui est objectif. Qui ne vient pas unique, qui est à mesure de ce qu'on devrait être, à mesure de ce qui est finalement notre liberté. Bon, en lisant Benoît XVI, ça aurait pu paraître, ben voilà, hein, c'est une règle. Ici, on voit que la source, de découvrir que la source de l'amour, eh bien, on ne se la donne pas soi-même, hein, on la reçoit donc, d'un autre. Hein. Donc, il y a une beauté. C'est beau, c'est important de voir que, autrement dit, il y a un geste humain, là, hein, qui a du sens et qui a de la portée. Vient alors le paragraphe suivant, où là, il est parlé, enfin, c'est sûr, précisément, à ce moment-là, c'est sur la multitude. Hein. Autrement dit, combien, là, il se réfère, Jean Farino, donc, à Jean 6, enfin, que... Si le Christ se donne, c'est pour la multitude elle-même. Et la volonté du Père, c'est qu'il ressuscite tout le monde. Et à la fin, voilà, paragraphe, on dit les 12 couffins, voilà, qui étaient là, la multiplication des pains représentait les tribus d'Israël. Donc, il y a toute la foule immense que Jésus vient rassembler. Qui n'est pas encore tout Israël, donc, hein, et qui est un peu la figure de l'Église. Et à la fin, il dit, hein, puisqu'ils contiennent le surplus d'un repas qui, en toute vérité, constitue déjà une anticipation et un commencement du rassemblement de tous. La dernière phrase du paragraphe, page 222. Si nous voulons être adéquats à l'ampleur du mystère eucharistique Nous devons, au-delà de notre communion au corps et au sang, adorer la présence réelle du Christ, déjà en communion, elle, avec tous les hommes, c'est-à-dire avec la multitude. Adorer, vous le voyez, ça revient, c'est le voir pour lui-même. Hein? Non pas, c'est normal que parfois, eh bien, on le regarde pour soi. Hein? On en a besoin. Non, mais ça c'est évident. Hein? Il est évident, eh bien, que souvent, hein, mais ce n'est pas de l'adoration comme telle. Hein? C'est de la supplication, c'est de la prière, beaucoup de formes de prière. Hein? Non, hein? Mais on voit, dès que c'est de l'adoration, ça, c'est tout de même, ça part d'un autre. Hein? Ça reconnaît, eh bien, hein, la vérité, hein, d'un autre. Hein? Ça reconnaît la vérité du corps du Christ. Hein? De la même façon, peut-on dire, mais là, enfin, eh bien, adorer Dieu, c'est reconnaître pour ce qu'il est en lui-même, quoi. Donc, on voit ici ça rapport avec, on le voit, bon, non seulement ma communion au corps et au sang du Christ, mais finalement, eh bien, du coup aussi, puisque je contemple aussi dans le Christ, eh bien, les multitudes que le Christ rassemble pour son sacrifice. C'est ça, c'est un élément, hein, que, vous savez que c'est souvent l'adoration eucharistique elle-même, eh bien, un côté, c'est-à-dire missionnaire, évangélisateur, quoi. Hein, ça ouvre sur les autres. Dernier point, n'en reste là, tout de même, c'est la résurrection de la chair. Nous en avons déjà parlé. Hein. De fait, on aurait dû en parler parce qu'il n'y a pas, vous le voyez bien, l'Eucharistie, bon, c'est ce qui est donné au moment présent, mais ce qui est donné au moment présent est tout de même un gage de ce qui est à venir. Hein. On en avait parlé surtout avec, je crois, Irénée, on est pour qui, le corps et le sang du Christ sur l'autel, eh bien, c'est comme un remède d'immortalité, quoi. Hein? Même Luther, disait, mettons, le réalisme eucharistique, la même façon que l'on mange, que l'on broie, hein, le corps, eh bien, c'est ce corps-là qui va nous sauver plus tard, là. Bon. Alors, on voit, donc, c'est un autre aspect important, un aspect important de la réalité eschatologique de l'Eucharistie. Donc, paragraphe au milieu, là. La volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Par sa participation à l'Eucharistie, le croyant reçoit, dans le temps présent et dès ici-bas, la vie éternelle de Dieu. On reçoit la vie éternelle de Dieu. Une vie plus forte que la mort. Et sa chair elle-même, à travers l'acte de manger et de boire, l'acte d'assimiler la chair et le sang du Christ, et d'être ainsi assimilé par lui, est introduit dès maintenant dans le monde de la résurrection. Nous sommes, bien entendu, dans le domaine de la foi. Mais la foi aussi donne des yeux pour voir. La foi donne des choses, aussi une capacité de ressentir les choses. Hein? Hein? Vous le voyez bien, je reprends la phrase. Hein? Une vie plus forte que l'un, et sa chair elle-même, à travers l'acte de manger de boire, l'acte d'assimiler la chair et le sang du Christ, et d'être ainsi. Parce qu'en l'assimilant, eh bien, on est assimilé par lui. Hein? On est introduit, autrement dit, eh bien, dans le monde des réalités futures. Fin de la page. Quand nous communions, nous croyons que celui qui vient demeurer en nous et qui nous donne de demeurer en lui, nous communique la vie éternelle à travers le don de sa chair vivifiée. Et qui est là, hein? Hein? Il y a encore une belle phrase ici. Ah oui, donc, je fais que cueillir les belles phrases comme ça. Mais donc, la page 224, hein? En haut. On revient toujours à l'adoration, hein? Eucharistique. Quatrième ligne. C'est pourquoi il nous est bon de contempler dans l'hostie le récipient réellement présent dans un élément matériel, le pain. Nous trouvons ainsi l'assurance que la puissance du ressuscité est telle qu'elle peut assumer et sauver à jamais même ce qu'il y a en nous de plus matériel et de plus fragile, la chair. Le Seigneur veut nous sauver tout entier, âme et corps, esprit et chair, de nous. Il ne veut rien perdre, même pas cette pauvre chair qui par elle-même, comme l'herbe, se fane et se sèche. Comment dit, c'est tout de même des garde-chemins, s'il le fait remarquer. Hein? C'est tout de même un élément, hein? L'Eucharistie, corps transfiguré, c'est tout de même un élément donc, de ce monde qui est tout de même dans le Christ. Vient alors à ce moment-là le dernier paragraphe qui parle sur l'ascension, si je veux dire, enfin, de notre monde matériel. Et je dirais, voilà, hein, on est dans un monde tellement, on pourrait dire, utilitaire. Hein. On est dans un monde, comment dire, qu'il faut technique, qu'il faut dominer, hein, à tous les niveaux et tout. Eh bien, si c'était un monde, un univers dont on n'avait qu'à se servir. Hein. Et alors, vous voyez, on pense contemplation ici, contemplation du corps du Christ. Hein. Eh bien, en un sens, l'univers aussi devrait être aussi objet de contemplation. Hein. L'univers aussi devrait être source d'étonnement, d'inspiration et de poésie, épiphanie d'un mystère et parole de Dieu. Et donc, de ce point de vue-là, déjà un élément, hein, de ce monde, hein, de notre terre, hein, consacré dans le Christ, et qui, eh bien, ouvre sur un regard, pas seulement utilitaire, mais un regard aussi contemplatif par rapport au monde et qui nous est donné, hein, et que nous avons donc à sauvegarder. Ça vaut pour l'écologie, hein, évident, hein, mais ça vaut aussi pour les significations, la portée, ce que ce monde, hein, a à nous dire. Donc, voilà, je me dis, il y a un certain exprimé de certaines façons, mais un certain nombre d'idées tout de même qu'on a déjà, hein, on a pu voir à mesure qu'on parcourait le sujet lui-même. Et alors, mais voilà, tout simplement, c'est de se dire, c'est l'adoration eucharistique comme telle est une dévotion. Hein. Non, certaines choses obligatoires. Donc, sur certains points, ça relève aussi de la sensibilité de chacun, mais comme dit, je crois, l'a dit bellement, hein, bellement, hein, l'a dit bellement donc, Benoît XVI, c'est même une continuation, hein, Jean-Marie Hainaut, hein, et bien de ce que nous célébrons dans l'Eucharistie, hein, et qui passe par nous, puisque l'Eucharistie, c'est l'action, hein, de l'Église. Nous en restons là. Grand merci, hein, d'avoir eu la patience. Hein? La patience d'être là jusqu'au bout. Ben, j'aurais eu beaucoup de plaisir à le faire. Puis je présume que vous avez eu un certain plaisir puisque vous êtes revenu. Hein? Parce que c'est pas toujours évident. Hein? Hein? Voilà.